Bonjour. Bonjour et bienvenue à la dernière partie, au dernier module de ce chapitre, le chapitre qui s'intitule donc Notions de base sur l'alimentation santé, faisant partie du Master Course en nutrition dans le diabète. Et ce module s'attarde sur les recommandations alimentaires. Je vous ai mis sur cette diapo plusieurs exemples de recommandations alimentaires qui nous proviennent d'un peu partout dans le monde. Donc, vous pouvez voir à votre gauche le guide des recommandations américaines avec le MyPlate et à droite, en haut de l'écran, les recommandations du guide alimentaire canadien. Les régimes alimentaires optimaux peuvent être très différents et cela est très important à retenir car les populations humaines ont pu survivre et se développer à travers des contextes très différents, qu'ils soient climatiques ou géographiques, avec des alimentations qui sont très différentes. Toutefois, on remarque que les régimes alimentaires ou les diètes qui sont diversifiées, qui favorisent les aliments naturels, donc peu transformés, ceux qu'on transforme à la maison ou qu'on consomme directement frais, l'alimentation qui est riche en légumes et fruits est souvent de meilleure qualité. Même si on ne peut pas dire qu'il y a un seul régime qui soit à promouvoir à travers la planète. Plusieurs pays à travers le monde ont publié leurs guides alimentaires afin de guider la population dans les choix alimentaires. Donc, en Afrique, il n'y en a pas beaucoup de guides, mais il y a quelques pays qui ont quand même publié leurs guides, notamment l'Afrique du Sud, le Bénin, la Namibie, le Nigeria et les Seychelles. Voici le guide alimentaire du Bénin. Donc, rappelons-nous qu'un guide alimentaire est destiné à la population en général. Donc, ce n'est pas un guide pour une population qui a un problème de santé. Mais pour le diabète, je l'ai déjà mentionné, je le mentionnerai encore. Une alimentation saine pour tout le monde est la base d'une alimentation saine pour le diabète aussi. Donc, le guide alimentaire béninois, comme vous pouvez le voir ici, met l'eau au centre de cette case africaine. Pourquoi? Parce que l'eau est le meilleur moyen pour étancher la soif. Il devrait être le moyen principal et non pas les jus sucrés ou les autres boissons sucrées. Et ensuite, on regarde les différentes catégories d'aliments. Donc, on a les céréales et tubercules, les viandes, poissons, haricots et autres sources de protéines, les légumes, les fruits et les produits laitiers. Les Seychelles aussi ont leur guide alimentaire. Donc, vous pouvez voir les recommandations qui sont écrites. Il y en a 16 à ma gauche sur l'écran. Elles sont en anglais. Et donc, ce qu'elles disent, c'est de consommer une alimentation variée qui comprend des aliments différents, de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes tous les jours. Toutefois, on n'indique pas c'est quoi une portion de fruits et légumes. De consommer les aliments qui sont riches en graines entières plutôt que celles qui sont à graines raffinées, au moins 3 fois par semaine, consommer du poisson au moins 5 jours par semaine, consommer des légumineuses, réduire le montant d'huile végétale, des autres graisses et des aliments gras, enlever le gras de la viande avant de la cuire, limiter la cuisson par friture des aliments à jusqu'à une seule fois par semaine et consommer les sucres et les aliments sucrés et ainsi que les boissons sucrées de façon minime. Inclure au moins 3 portions de produits laitiers ou de lait tous les jours. Utiliser le sel et les aliments salés en très petite quantité. De consommer au moins 8 verres d'eau par jour. Et si vous buvez de l'alcool, de ne pas dépasser les recommandations. Maintenir un poids raisonnable et faire de l'exercice au moins 30 minutes par jour. Donc là, on voit qu'il y a aussi des recommandations d'activité physique à l'intérieur de ces recommandations alimentaires, d'allaiter l'enfant exclusivement jusqu'à 6 mois, donc aussi une recommandation alimentaire, mais pour les tout petits, et faire ou profiter d'une bonne hygiène quand on manipule les aliments. Donc ça, c'était un exemple de recommandation dans un pays africain. Aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'une étude de 2015 internationale qui a été publiée dans le Lancet, rien de moins, disait que le modèle alimentaire en Afrique de l'Ouest était parmi les meilleurs dans le monde. On s'entend que c'est le modèle alimentaire traditionnel qui est consommé de manière optimale. Comment est-ce que ça peut être? C'est-à-dire, quand on regarde les combinaisons de bases céréalières ou de tubercules avec une sauce qui contient des légumes et des sources de protéines préparées avec peu de matières grasses, voilà ce que ça représente donc ce modèle alimentaire. Et c'est un modèle qui est répandu dans plusieurs pays africains et en Haïti, par exemple, aussi. Mais il faut faire attention parce que souvent on va dire oui, on va consommer pardon, notre alimentation traditionnelle qui est variée, etc. Mais quand on regarde un peu comment cette alimentation est préparée, on se rend compte que, ma foi, il y a beaucoup de gras et de sel qui sont ajoutés. Le sel provient souvent, arrive en forme de cubes. Et aussi le gras est utilisé librement, surtout avec les huiles végétales qui sont devenues au niveau planétaire moins chères qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc, traditionnellement, les huiles, les gras étaient une ressource prisée car chère, difficile à acquérir. Et maintenant, on est inondé à travers le monde par des huiles végétales qui sont relativement à faible coût. Ce qui, donc, puisqu'elles avaient ces huiles et ces gras, ils avaient ce statut spécial, et on les consommait avec parcimonie. Maintenant que ces aliments ou ces ingrédients sont disponibles, assez librement, ben, leur consommation a augmenté. Et certaines personnes qui font, la cuisine, qui préparent, la nourriture, ont tendance à exagérer un peu, l'utilisation de ces ingrédients. Donc, pour résumer un peu, qu'est-ce qu'une alimentation santé? Une alimentation santé, comme je l'ai dit, est la base d'une alimentation santé pour tous, mais aussi la base d'une alimentation santé pour les personnes qui veulent prévenir le diabète ou qui doivent le ménager ou bien le contrôler. Donc, cette alimentation est diversifiée. Elle favorise avant tout les légumes et les fruits frais. Elle favorise les aliments qui sont préparés à la maison avec peu de gras et de sel ajouté. Elle évite les produits qui sont ultra transformés, incluant les friandises, les bonbons, les biscuits, les chips ou croustilles, les aliments qui sont prêts à consommer, à réchauffer, à consommer. Donc tous ces aliments-là sont ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Les céréales de petit déjeuner qui sont très sucrées, ce sont des aliments ultra transformés. Elle évite aussi les sucres ajoutés. Donc les sucres qui sont soit ajoutés aux boissons sucrées ou ajoutés dans les friandises. Et elle minimise les sucres libres qui sont naturellement présents dans le miel ou dans les jus de fruits. Elle est la même pour tous les membres de la famille. Donc ça, c'est important à souligner, c'est qu'une alimentation santé doit être attrayante, attirante pour tous les membres de la famille et elle devrait être suffisante pour tout le monde. Comme vous avez vu dans les recommandations des Seychelles, ils disent un enfant de moins de 6 mois, il doit être exclusivement allaité. Donc c'est le seul enfant, le seul membre de la famille dont l'alimentation est vraiment très différente. Ensuite, cet enfant, jusqu'à l'âge de 2 ans, doit continuer d'être allaité avec une alimentation qui lui est propice, en faisant plus d'emphase sur les aliments de provenance animale. Mais en d'autres termes, les autres membres de la famille devraient pouvoir consommer la même alimentation. Et qu'il n'y ait pas une alimentation pour les enfants ou qui se décline en fast-food de plus en plus et une alimentation plus pour les adultes, par exemple. Et l'alimentation toute seule n'est pas suffisante, donc pour avoir une bonne santé, il faut aussi que l'alimentation fasse partie d'un style de vie sain qui favorise l'activité physique quotidienne. Donc cette activité physique quotidienne peut être soit à travers des exercices de physique ou bien tout simplement à travers le transport actif, par exemple en se rendant au travail ou à l'école de manière active, soit à pied, soit quand c'est possible dans certaines circonstances en bicyclette ou autre. Donc ce sont des moyens qui favorisent l'activité physique. Et une alimentation saine est aussi une alimentation qui est consommée de façon conviviale. Donc des études démontrent que quand on consomme avec d'autres, on a tendance à mieux manger plutôt que quand on est devant un écran, par exemple, où on a tendance à consommer des aliments ultra transformés plus que si on était en famille ou avec des amis autour d'une table ou autour d'un repas traditionnel. Donc les recommandations pour le diabète, il y en a qui sont un peu plus spécifiques et on va les aborder dans le chapitre qui s'intitule Les grandes lignes de la gestion nutritionnelle du diabète. Mais je vais simplement ici vous donner un résumé d'une alimentation pour le diabète d'après l'Organisation mondiale de la santé qui dit ceci. Donc, recommandation générale de nutrition pour la population. Donc, la base d'une bonne alimentation pour tous de l'OMS. Les besoins quotidiens en énergie, vitamines et minéraux sont satisfaits. Donc, on a le minimum nécessaire. Mais l'apport énergétique ne dépasse pas les besoins. L'apport de graisse saturée est inférieur à 10% de l'apport énergétique total, donc moins que 10% des calories proviennent des gras saturés. L'apport d'acides gras trans est minime et inférieur à 2% de l'apport total en matière grasse. Rappelez-vous, on a parlé des gras trans dans un autre module et on a dit que certains pays bannissent complètement son utilisation, car il a été impliqué dans les problématiques de maladies cardiovasculaires. Donc, il est très important d'en minimiser l'apport. L'apport de sucre libre est inférieur à 10% de l'apport énergétique total quotidien, ou de préférence inférieur à 5%. Et les sucres libres, donc, ce sont les sucres ajoutés, comme dans les boissons sucrées et les boissons gazeuses, mais aussi les sucres qui sont librement absorbés durant la digestion par le corps humain, comme les sucres qui existent dans le miel, où on n'a pas rajouté le sucre, il est là de manière naturelle, ou bien dans les jus de fruits qui sont naturellement sucrés et où le sucre n'est plus retenu par la membrane ou par le complexe de fibres qui le retenait, ce sucre-là, dans le fruit lui-même. Donc, quand on consommait le fruit entier, l'absorption de glucose, de fructose d'abord plutôt, qui provenait du fruit, était plus lente à cause de cette complexité du fruit qui retenait le sucre, alors que dans le jus, il devient libre, comme son nom l'indique. L'apport en sel doit être inférieur à 5 grammes par jour et le sel doit être iodé pour justement éviter la carence en iode qu'on a vu était un problème de santé publique important à travers le monde et qui affectait certaines populations de manière importante et qui pouvait causer des retards surtout cognitifs et mentaux. La consommation de fruits et légumes doit dépasser les 500 grammes par jour, donc important. De mettre l'emphase sur ces produits-là et un apport adéquat en aliments d'origine animale est garanti surtout chez les enfants de moins de 5 ans car ceux-là ont besoin d'avoir une alimentation qui est dense en nutriments et les aliments qui sont d'origine animale sont habituellement plus denses en minéraux et vitamines que des aliments végétaux pour ces enfants qui ont des petits estomacs et qui ont besoin d'une alimentation adéquate pour leur croissance. Donc, pour conclure, ce petit module, qui est vraiment un petit résumé de l'emphase qu'on doit mettre sur une alimentation santé pour tous. Donc, les choix alimentaires, pour conclure et pour revenir au premier module, si j'espère que vous vous en souvenez, les choix alimentaires dépendent de l'individu, oui, mais seulement en partie, car il y a des facteurs mondiaux, économiques qui ont une influence sur l'alimentation de l'individu. Il y a des facteurs dans la communauté, autour de lui, dans la famille, dans son milieu de travail, etc. Qui ont aussi une influence. Et n'oublions pas l'influence du marketing, de la publicité, qui module nos préférences alimentaires, qui les change. On pense parfois que c'est obligé, par exemple, d'utiliser certains ingrédients maintenant, alors que ce n'est pas du tout traditionnel, je pense. Vous avez deviné, au fameux cube qu'on utilise à toutes les sauces dans la cuisine. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours été fait, n'est-ce pas, puisque c'était une introduction étrangère à la cuisine de l'Afrique de l'Ouest ou d'Haïti. Donc, le marketing et la publicité ont une grande influence. Puis si on regarde notre consommation, par exemple, par rapport aux boissons sucrées, aux boissons gazeuses, etc., on voit que cette consommation-là est très dépendante des efforts de marketing qui sont déployés par les grosses compagnies. Donc, l'alimentation santé telle que décrite est au fond le régime optimal pour les personnes diabétiques aussi, mais aussi pour les personnes non diabétiques. Ceci est une bonne nouvelle pour les familles qui ont des membres diabétiques et qui ne savent pas trop quoi faire pour contrôler le diabète. L'approche la plus durable pour tout le monde serait de essayer de transformer d'optimiser la diète de tout le monde dans le ménage. Car pour ceux qui n'ont pas le diabète, cette alimentation santé a aussi un rôle de prévention. Aussi, il faut se rappeler qu'il y a différents modèles alimentaires, dont le modèle africain traditionnel, qui sont compatibles avec la santé. Mais ils ont tous, donc ces modèles-là, certaines caractéristiques en commun. Ils sont diversifiés et favorisent les aliments qui ne sont pas transformés, donc les aliments qui ne sont pas industriels, mais qui sont plutôt locaux, fabriqués à la maison, etc. Et ils contiennent les différents macronutriments et micronutriments dans les proportions recommandées et avec en tenant à l'esprit les besoins en nutriments, les vitamines, les minéraux et les macronutriments qu'on avait discutés avant dans le chapitre. Alors voici, ceci conclut mon module, mais aussi le chapitre. J'espère qu'il vous a été utile et au revoir.